Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm. Il est 14h. Bienvenue sur Rayon libre. Le vélo, un marché de plomb, point d'interrogation. Une émission qui est enregistrée vendredi 26 avril 2024. Si vous nous écoutez en direct, eh ben coucou. Si vous êtes peut-être dans votre voiture, allez courage, 30 minutes, vous serez loin ou pas. Si vous êtes au bureau, casque sur les oreilles, eh ben vous nous écoutez peut-être en streaming depuis le site cause-commune.fm ou via l'appli qui est dispo sur Android et iOS. Peut-être même que vous consommez Rayon libre en podcast le matin, le soir, pendant une insomnie. En tout cas, ravi d'être avec vous aussi. Merci à Olivier Gréco, directeur de l'antenne de Cause Commune. Merci aussi à Cause Commune de rendre cette émission possible. Merci à Abel Guggenheim, il va nous dévoiler le fruit de ses recherches évoquées la semaine dernière. Merci à Wheels.fr aussi, qui est quelque part coproducteur de cette émission. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci de votre fidélité, merci de vos messages. Continuez, on fait effectivement cette émission pour vous. Il n'y a pas de plomb dans les batteries lithium-ion utilisées dans nos vélos à assistance électrique. Il n'y a pas plus de plomb sur un vélo musculaire. C'est paradoxal. D'un côté, la dernière fois que l'on a vu autant de cyclistes à Paris ou ailleurs, c'était probablement dans l'entre-deux-guerres. De l'autre côté, le marché du vélo est en berne. D'un côté, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour soutenir le vélo et son développement. Et en même temps, il n'a jamais mis autant d'argent pour soutenir la voiture, le train, l'avion. Donc bon. D'ailleurs, l'USC contextualise les résultats de la France versus les voisins européens. Le marché du vélo semble crever. Il semble à plat. Vente en volume en 2023 chez les voisins, ce sont des sources Union Sport et Cycle. Au UK, c'est moins 5%. Aux Pays-Bas, c'est moins 6%. En Belgique, c'est moins 13%. En Allemagne, c'est moins 15%. En Italie, c'est moins 23%. Et au Danemark, c'est même jusqu'à moins 40%. Le Danemark, puisqu'on en parle, entre 2022 et 2023, il y a eu 200 000 vélos vendus en moins sur un marché de environ 460 000 vélos. Ça douille. Les chiffres donc viennent de Danske Cykelhandler, le syndicat professionnel local, une sorte de Union Sport et cycles locales. Et la France, comment le marché du cycle en France se porte-t-il? Avec nous, Virgile Caillet, secrétaire général de l'Union Sport et Cycles. À l'heure où cette émission est diffusée pour la première fois, l'USC, avec Jérôme Valentin, vice-président de cette organisation, qui est aussi le boss de Cycle Europe, section vélo, et André Guestem, boss de Shimane France, ont présenté l'Observatoire du cycle 2023. Tentons de lire un peu entre les lignes ce qui a été présenté. Le vélo, un marché de plomb, vraiment. On va tenter d'abord un diagnostic de malade, et si le malade est-il si malade que cela, d'ailleurs, puis on va tenter d'explorer avec Virgile Caillet des pistes de traitement. Comment aligner tout cela? Bonjour Virgile, merci de votre présence au micro de Rayon Libre.
Bonjour Jérôme, merci à vous de m'accueillir et très belle synthèse. Vous avez souligné en fait tout ce paradoxe du marché du vélo en France.
Alors on va y venir un peu. D'abord, merci de me permettre d'enregistrer cette émission le vendredi alors que les chiffres n'ont pas encore été diffusés et divulgués, ils le seront lundi matin. Cette émission sera évidemment diffusée qu'à 14h lundi. Virgile, peut-être commencer par présenter rapidement ce que c'est l'Union Sport et Cycle pour nos auditeurs et auditrices.
Oui, très rapidement, c'est donc un syndicat professionnel, hein, une organisation patronale. Si je devais caricaturer les choses, c'est un petit peu la CPME ou le MEDEF du sport.
Oui.
Nous représentons toutes les entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Donc effectivement, nous allons vous présenter les chiffres de ce secteur, qui est un secteur clé, puisque vous allez le voir, il représente quand même un marché significatif à plus de 3 milliards d'euros.
Ouais.
Donc vous comprenez qu'il y a quand même un véritable enjeu à la fois industriel en termes d'emploi et en termes de rayonnement international également pour la France sur le sujet du vélo.
Évidemment. Alors l'USC, elle présente tous les ans un observatoire du cycle, document qui est traditionnellement présenté en avril et qui présente les chiffres consolidés de l'année précédente. Donc là, on va parler des chiffres de vente de 2023 pour expliquer aussi et pour poser un peu le sujet. Est-ce que vous pouvez rappeler aussi quand même votre méthodologie et sur quelle base vous sortez vos chiffres?
Oui, alors c'est une méthodologie extrêmement complète puisqu'en fait, on balaye les résultats pratiquement exhaustifs à la fois des grandes enseignes de multisports, hein,
ouais,
qui vendent des vélos ou qui réparent des vélos. On balaye également les résultats des indépendants, et là c'est un petit peu plus compliqué, donc on a un échantillon extrêmement représentatif, presque le tiers du marché, ce qui nous permet derrière d'en faire une extrapolation tout à fait fiable sur la base des surfaces des magasins et puis du nombre de vélos vendus. Et par ailleurs, on interroge également les grandes surfaces alimentaires qui vendent également des vélos, oui, mais aussi les pure players, donc les sites internet où il y a également de la vente de vélos. On parle bien de vélos neufs, Jérôme.
Oui.
Ce sont bel et bien des chiffres de vélos neufs dont on va parler aujourd'hui.
Et d'accessoires et de périphériques.
Également que depuis l'année dernière, eh bien, on explore également d'autres segments,
oui,
de marché comme la location en libre service ou alors les flottes de vélos qui pourraient être achetées par les collectivités. Parce que finalement, tout ça participe globalement à l'industrie du cyclisme.
Bien sûr, bien sûr. Et aussi le vélo de fonction, par exemple, ou quand vous parlez de flotte de vélos publics, il y a notamment l'association des acteurs du vélo public qu'on avait reçu ici il n'y a pas très longtemps.
Exactement, tout à fait. La bien sûr.
Rentrons dans le vif du sujet maintenant qu'on a un peu posé le décor. Alors, fin janvier, à l'occasion des vœux à la presse de l'Union Sportistique, Jérôme Valentin y plantait le décor. Je le cite, il y a du stock à tous les niveaux. Les magasins sont stockés, les assembleurs sont stockés, les équipementiers sont stockés. Il ne le disait pas, mais on peut imaginer aussi les consommateurs sont stockés. On en est où aujourd'hui au côté du stock qui est un peu le gros enjeu, je pense?
Oui, alors évidemment, lorsque l'on a présenté les différents chiffres de nos marchés respectifs, hein, on porte les marchés des articles de sport, du tourisme sportif, etc. Donc on a balayé un petit peu tous ces secteurs.
Ouais.
Et effectivement, Jérôme n'a pas voulu dévoiler les premiers chiffres dont on disposait à propos du marché du cycle. C'est bien logique, on était fin janvier. Mais on avait déjà une tendance assez significative. Et effectivement, ce qui plombe un peu le marché actuellement, c'est ce sujet du stock. Un stock qui va progressivement se libérer, hein,
oui,
d'abord des industriels, puis des magasins. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une sorte d'effet ciseau. Il y avait une demande extrêmement forte en 2020-2021. 2021, c'était même le pic de la demande. On n'avait,
oui,
d'ailleurs jamais vendu autant de vélos en France à ce moment-là. Ça a été le record absolu. Et évidemment, ça a engendré une réaction de la part des industriels qui étaient un petit peu en retard ou en tout cas qui ne s'attendaient pas à cette demande aussi importante et qui ont donc fabriqué, mais avec un temps de retard. Et donc, toute cette production est arrivée sur le marché à un moment donné où la demande baissait.
Oui.
Et évidemment, ça a engendré des surstocks, des stocks en magasin. Ça veut dire de la tension sur la trésorerie pour financer le stock. Ça veut dire évidemment des promotions, des prix cassés, et puis par répercussion, par effet domino, des stocks également chez les industriels qui se sont retrouvés avec la même tension en termes de trésorerie, etc.
Alors, oui,
et la difficulté de financer les nouveaux modèles. Donc vous voyez, pour reprendre un petit peu des images ou des analogies cyclistes, un marché qui s'est grippé avec des résultats effectivement très décevants. C'est un coup d'arrêt, on peut,
oui,
le dire, il faut le reconnaître. Mais, et c'est ça qui est important, ça ne remet pas en question le développement du vélo en France, qui lui, au contraire, se porte très très bien. Et c'est tout le paradoxe de la situation que l'on vit aujourd'hui, 2023 et probablement 2024. Jamais, jamais les Français n'ont fait autant de vélos. Nous avons tous les indicateurs qui permettent de l'affirmer. Jamais ils n'ont utilisé le vélo comme un moyen de locomotion ou simplement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'était il y a 50, 60 ans en arrière.
Oui.
Donc là, on a un regain d'utilisation, une ferveur pour le vélo. Mais en revanche, ils n'achètent pas de vélo neuf à très court terme,
oui,
et c'est ça qu'il faut arriver à apprécier, à analyser.
Et alors justement, ce qui est intéressant, et alors c'était un peu ce que je voulais aborder en deuxième partie d'émission, mais il y a un secteur d'activité ou un secteur dans le monde du vélo qui se porte plutôt pas mal, c'est le secteur de la réparation avec plus 19%, 111 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est donc la preuve que les Français y pédalent, c'est la preuve que les Français ils usent leur vélo et qu'ils ont besoin de l'entretenir.
Exactement, c'est QFD, c'est-à-dire que on a plus 5% de fréquentation sur l'ensemble du territoire sur les pistes cyclables identifiées, hein, c'est un,
oui,
baromètre vélo et territoire,
oui,
mais sur Paris, je peux vous dire que la fréquentation elle est bien plus importante. Donc indiscutablement les Français n'ont jamais autant utilisé leur vélo et c'est une très bonne nouvelle. Et puis également des intentionnistes. Beaucoup d'intentionnistes, plusieurs millions de Français qui disent qu'ils vont acheter un vélo dans les 12 mois qui viennent. Simplement, effectivement, l'effet d'un contexte général extrêmement anxiogène,
oui.
que ce soit le contexte social, le contexte économique, le contexte géopolitique, tout ça a poussé les Français à ajourner, à arbitrer sur l'investissement, l'achat d'un vélo. Donc le développement du vélo n'est pas remis en question, mais à très court terme, effectivement, l'achat de vélo neuf.
Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que... Oui, allez-y.
Non, plus d'utilisation, donc plus de consommables,
oui.
et effectivement plus de réparations, parce que les Français n'ont pas acheté de vélo neuf, mais ils ont fait réparer leurs vélos,
oui.
les vélos qui dormaient dans les garages, dans les maisons de campagne, dans les caves. Et donc là, on voit cette augmentation, vous avez donné le chiffre, donc plus 19%. Mais ce qui est presque plus intéressant, si j'ose dire, plus 19%, c'est déjà une augmentation qui est extrêmement significative. Mais depuis 2019, donc c'est-à-dire avant la crise sanitaire, c'est plus 110%.
Est-ce que...
Donc, c'est une explosion de la maintenance, de la réparation.
Pourtant, alors ça c'est le boulot que je fais moi au quotidien, de discuter avec des vélocistes. Souvent les vélocistes, ils voient leur atelier, en tout cas quand ils sont en centre-ville, et on a aussi l'exemple de Vélogic qui a jeté l'éponge, ils voient leur atelier plus comme une sorte de centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu ici à amener de la valeur sur ce service qui est la réparation ?
Alors, j'en suis convaincu, ça pose aussi des questions sur le sujet de la formation,
oui.
parce que c'est un petit peu la jungle aujourd'hui
oui.
Sur les formations vélo, hein. Il y a des formations de 40 heures et des formations de 40 jours, donc c'est pas la même chose. Donc effectivement, il va falloir qu'on fasse le tri, et on va s'y employer au niveau de l'Union Sport et Cycle
oui.
Pour clarifier un petit peu toutes ces formations. Et je pense qu'un certain nombre d'acteurs de la distribution ont revu un peu leur modèle économique, parce que il faut vendre des vélos, mais il faut aussi apporter du service.
Oui.
Et le service, c'est la maintenance, c'est la réparation.
C'est le conseil aussi au niveau de l'achat.
On l'a cité, ouais, exactement, des conseils, des produits, des accessoires, etc., parce qu'il faut équiper le vélo, et on n'avait plus forcément l'habitude. Donc là, il y a tout un marché potentiel qui est très important. 20% d'augmentation sur les réparations, c'est considérable, hein,
oui.
on l'a dit. Hein. Donc ça traduit bien quand même cette ferveur qui ne se dément pas pour l'utilisation du vélo.
Écoutez, alors ça fait déjà 15 minutes quasiment qu'on parle, donc on va lancer la pause musicale. En tout cas, c'est Rayon Libre avec Virgile Caillet qui présentait ce matin l'Observatoire du Cycle de 2023. Même si nous, eh ben, l'émission est enregistrée, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, Rayon Libre. On va se faire une pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter en musique ? Eh ben, on va écouter Christophe, Coup de fouet. Même si en vrai, cette chanson est plutôt une chanson d'amour qu'un coup de fouet, mais c'est un peu quand même ce dont a besoin, je pense, le marché du cycle. On se retrouve dans 3 minutes.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Ton rire, ta voix, je regarde autour de toi. Mes yeux ne savent plus trop bien pourquoi. Je suis là, je ne comprends plus. Je suis mal, comme un homme abattu. Ton cœur veut parler, tes lèvres sont crispées. Je vais crier, je t'aime, parce que tu sais, je t'aime. Mes yeux cherchent tes yeux pour la première fois, dans l'espoir d'y trouver un dernier mot de toi. Mon corps ne supporte plus. tout ce mal dans ma tête. Je vais crier, je t'aime, parce que tu sais, je t'aime. Mais à coup de fouet, viens me briser. Et soudain, c'est noir, mais j'ai besoin de voir. Je vais crier, je t'aime, parce que tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Peut-être un cri d'amour de Christophe pour le vélo. Toujours Cause Commune, 93.1 FM. Deuxième partie de Rayon Libre avec Virgile Caillet de l'Union Sportistique. Vous êtes secrétaire général. Le marché du bicloun et des parts and accessories, comme on dit en anglais, en 2023. Et ben, le vélo, c'est pas Saint-Yor, ça va pas si fort. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Justement, Virgile, si on doit parler un peu de bonnes nouvelles, si on devait retirer deux, trois trucs qui sont intéressants et qui permettent de donner, d'avoir de l'espoir, c'est quoi sur le marché du cycle aujourd'hui?
Écoutez, on l'a évoqué, c'est que l'utilisation du vélo en France n'a jamais été aussi forte.
Oui.
Donc on a effectivement une situation conjoncturelle qu'il va falloir absorber, digérer,
oui.
Liée à tout ce stock qu'on a accumulé 2022-2023. Et puis, encore une fois, liée aussi à un contexte général, hein, on l'a dit, économique.
Oui, et puis inflation. Et, ouais.
Les foyers ont un niveau de confiance qui est assez bas. Donc, évidemment, pour ce qui concerne le vélo, qui est un investissement, hein, ça représente quand même un coût pour un foyer, eh bien, on repousse un peu l'achat du vélo neuf ou du VAE quand on a un vélo classique ou du vélo cargo quand on veut accompagner les enfants. On ajourne un petit peu cet investissement. Mais en revanche, ça ne remet pas du tout en question les fondamentaux et l'envie des Français de faire du vélo. On voit également que dans toutes les politiques publiques désormais, eh bien, est intégré un volet qui concerne la mobilité active et donc la place du vélo, avec des parkings sécurisés, avec des voies cyclables. Donc on voit bien qu'on est en train, progressivement, oui, à notre vitesse, de devenir aussi un pays de vélo. Donc ça, c'est quand même les points positifs. Et effectivement, il va falloir dépasser quand même cette crise. Alors on va pas parler de crise, mais ce faux plat montant avec une face.
Oui.
Voilà.
Oui, parce qu'on peut, enfin, il faut aussi nommer les choses. C'est quand même aussi un peu la crise. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe chez Scott, par exemple, ou chez Axel, ou chez Pone, ou un peu partout, ou même quand on pousse les portes des vélocistes, ils font quand même un peu la tronche.
Ah ben, c'est-à-dire qu'on sort de trois années tout à fait exceptionnelles, hein,
oui.
20, 21, 22. C'était quand même une situation qui était peut-être un petit peu anormale, hein, d'ailleurs. Hein. Et je pense que aussi dans les, vous me demandiez quels étaient un peu les points positifs à relever. Si on prend un tout petit peu de recul entre 2019, c'est-à-dire l'année de référence avant la crise sanitaire, eh bien aujourd'hui en 2023, on a un niveau de valeur du marché qui est 42% supérieur.
Oui.
À ce qu'on avait en 2019.
Oui, et ça, faut pas l'oublier.
Il faut aussi prendre avoir ce pas de recul. Évidemment que par rapport à 2022, l'année 2023 n'est pas satisfaisante. Hein. Encore une fois, 2021, on avait battu le record du nombre de vélos neufs vendus.
Oui.
Donc en 2023, on est inférieur. Mais en revanche, on est largement supérieur par rapport à 2019 sur la valeur du marché, quoi.
Quand je regarde vos chiffres, je pointe du doigt un truc qui m'étonne un peu, c'est, alors ça va être un peu un focus, hein, mais quand on parle des vélos spéciaux, les vélos cargo, les vélos pliants, on se souvient l'année dernière, les vélos cargo, ils avaient le vent en poupe, ils semblaient inarrêtables, et aujourd'hui, le vélo cargo, il est à 0%. Il baisse pas, il monte pas. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer, ça, que ce vélo cargo, il stagne autant?
Il stagne. Encore une fois, je pense que c'est absolument conjoncturel,
oui.
Parce que le vélo cargo est sur un prix moyen qui est quand même relativement
oui,
élevé, et donc évidemment que quand il faut mettre 3000 euros dans un vélo, on y réfléchit, quoi.
Oui.
Donc je pense que c'est vraiment lié quand même à ce contexte, donc c'est vraiment une conjoncture. Moi, j'ai aucun doute à ce que le vélo cargo et le vélo en général poursuivre dans les années à venir son fort développement.
Est-ce que vous avez toujours parlé sur le vélo cargo? Est-ce que vous avez ce point de détail de, moi, en tout cas, c'est mon ressenti, en tout cas quand je regarde dans la rue, de plus en plus de long tail, mais qui ne compense pas finalement les pertes de biporteur ou de triporteur. Est-ce que vous avez ce niveau de détail-là à l'Union Sport et Cycle ou pas du tout?
On a le niveau de détail, là, je n'ai pas forcément sous les yeux tous les chiffres, mais dans l'étude complète, qui est un document extrêmement volumineux, et je veux saluer les équipes de l'Union Sport et Cycle d'ailleurs qui réalisent ce travail tout au long de l'année.
Avec Sisté aussi qui vous accompagne, hein, il faut le dire aussi.
Oui, absolument, tout à fait. On a, et cette tendance de la cyclologistique, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit à titre personnel pour les foyers, vous parlez des longtails, c'est souvent pour installer les enfants, les accompagner à l'école. Ça se développe, ça rentre progressivement dans les mœurs, et on note vraiment, vraiment, je tiens à souligner ces points positifs, et vous avez raison de le mentionner, il y a des points positifs, il y a un changement de perception du vélo.
Ouais.
C'est vrai sur le vélo cargo, désormais ça choque plus de voir des vélos cargo passer, ça semble même tout à fait normal dans notre environnement, et c'est vrai aussi d'ailleurs, puisque les deux seuls segments de marché qui sont à la hausse, c'est le vélo de route, et le gravel.
Oui.
C'est-à-dire pour des gens qui sont plutôt dans une logique un peu dynamique, sportive, le gravel, on pourrait le comparer au SUV en voiture. Oui. Je ne sais pas si la comparaison est très heureuse d'ailleurs, mais en gros, on est sur...
on pourrait demander à Pierre Chasseret.
avec des gens qui achètent des vélos, qui ont du pouvoir d'achat, et donc qui sont attentifs aussi à l'image que ça renvoie. On voit bien que la perception du vélo a énormément évolué. Donc tout ça aussi sont des indicateurs, des messages plutôt positifs dans la durée.
J'ai le souvenir d'une interview de Jérôme Valentin. Là, on va parler un tout petit peu, parce qu'on est vers la fin de l'émission, on va parler un tout petit peu de levier et de solution. Mais j'ai le souvenir d'une interview de Jérôme Valentin sur France Inter qui disait, alors on va l'écouter, qui disait qu'en gros, on n'avait pas besoin de faire de publicité dans le monde du vélo. On l'écoute.
Jérôme Valentin, pourquoi on ne les voit pas à la télé ou dans la rue?
Ben écoutez, c'est très simple. Une entreprise, elle fait de la publicité parce qu'elle en a besoin. Or, les voitures ont besoin de publicité. Si jamais les voitures arrêtent de faire de la publicité, si une marque arrête de faire de la publicité, eh bien, elle va vendre beaucoup moins. Nous, dans le vélo, c'est complètement différent. On nous achète les vélos. Et depuis 2 ans, on nous achète beaucoup de vélos. Et donc, on n'a pas besoin de faire de publicité.
C'était en 2022. Est-ce qu'il est temps de revenir à de la pub pour le vélo?
Alors, je sais pas si la publicité, puisque pour être impactant, il faut aujourd'hui avoir des moyens
colossaux,
considérables.
Oui.
Et puis, par ailleurs, il faut aussi être en capacité d'aller segmenter un peu ces messages sur les différents réseaux, etc. Donc, c'est pas facile.
Quel est l'un des gros enjeux, je pense, du monde du vélo, c'est que le cycliste, il est protéiforme.
Voilà, exactement, il est multiple, absolument. Donc je ne sais pas si c'est forcément la meilleure solution.
Oui.
En revanche, il y a des enjeux pour l'industrie du cycle en France. Parmi les solutions, puisque c'est un petit peu le sens de votre question, quels seraient les leviers?
Oui.
Il y a un levier qui est très important et on a eu une bonne nouvelle pas plus tard que la semaine dernière, puisque deux ministres, Patrice Vergriete pour le ministre des Transports et puis Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, étaient présents pour annoncer d'une part, la signature très prochaine d'un contrat de filière, il va y avoir une filière de l'économie du vélo, ça traduit bien tout l'intérêt des pouvoirs publics pour ce secteur, et puis par ailleurs, un appel à projet industrie du cycle, donc un appel à projet doté de 55 millions d'euros, dédié aux industriels du cycle, qui vont pouvoir accélérer la modernisation de leurs outils de production, massifier certaines productions, et donc être plus compétitif, et on peut l'espérer, des vélos qui seront faits en France sur des circuits courts, et ça aussi c'est un point que je veux relever et qui est plutôt positif. Ça fait partie des leviers importants qu'on attendait depuis longtemps.
Bien sûr, et justement, si nos auditeurs et auditrices qui travaillent dans l'industrie du cycle veulent en savoir un peu plus, il y a un article sur wheels.fr avec un lien qui renvoie sur le dossier de l'appel à projet de l'ADEME. On touche la fin de l'émission, on va donner la parole à Abel Guggenheim, mais juste avant de lui donner la parole, je vais vous poser une question, vous aurez le temps de la chronique d'Abel pour y réfléchir, Virgile. La semaine dernière, je recevais Nicolas Lovera, qui est aménageur de stades urbains, de pistes de BMX, de pump track, qui travaille pour Plégone, il est le CEO de Plégone. Est-ce qu'une voie de développement du vélo n'est pas là? Mettre autour de la même table les différentes commissions de l'USC pour raisonner vélo d'une manière globale. Mais en attendant, je vous laisse 3 minutes, le temps de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
Bonjour.
Je vous parlais la semaine dernière de cette annonce largement reprise dans toute la presse, selon laquelle, pour dire les choses de façon simple, le vélo avait dépassé la voiture à Paris. J'avais ironisé sur le fait qu'il s'agissait en fait d'un match pour la troisième place, loin derrière les deux premiers modes de déplacement à Paris, la marche et les transports collectifs, et vous ai annoncé que j'allais essayer de regarder avec attention ce qui avait été publié là-dessus pour tenter de clarifier le sujet. Je le dis tout net, c'est raté. Ces lectures n'ont rien clarifié du tout et m'ont plutôt embrouillé. Et d'abord, le lien que nous avions indiqué sur le site ne mène pas, comme on pouvait le supposer, vers l'étude elle-même, mais vers une série de commentaires variés sur cette étude, sa méthodologie et quelques résultats regroupés sous le sous-titre « Confirmation et renseignements inédits », dans laquelle le match vélo-voiture n'apparaît que dans une courte phrase « Les Parisiens utilisent plus le vélo que la voiture ». Suivent 48 pages en petit format de conclusions plus détaillées qui m'a semblé comporter des tas de résultats très intéressants. Et puis en page 23, le fameux tableau en anneaux qui donne 11% de déplacements en vélo contre 4% en voiture à l'intérieur de Paris. On notera déjà que la première série de résultats, les Parisiens utilisent plus le vélo que la voiture, parle des déplacements des Parisiens, alors que le tableau qu'il suit parle des déplacements à Paris. Ce sont à l'évidence des données différentes et même très différentes. Et le résultat en tableau, 11% de déplacements en vélo contre 4% en voiture, nous apprend donc en même temps que le nombre de déplacements à vélo serait environ le triple de celui en voiture. Si cette partie de l'information est exacte, alors ce déplacement s'est produit il y a plusieurs mois, et même sans doute plusieurs années. Comment se fait-il que ce spectaculaire basculement ait pu passer inaperçu ? J'ai relevé d'autres bizarreries sans pouvoir déterminer s'il s'agit d'éventuelles erreurs ou de maladresses de présentation. Je suis donc très sceptique sur les résultats de cette étude. Alors, beaucoup de bruit pour rien ? Moi j'y vois un résultat important, que personne ne semble avoir relevé. Fausse ou vraie, prématurée ou annoncée en retard, l'annonce qu'il y aurait plus de vélos que de voitures à Paris, inconcevable et inimaginable il n'y a que peu d'années, est aujourd'hui parfaitement entendable et écrivable. Ce n'est pas rien, et ce n'est pas très grave si on sait que c'est passé ou si ça va se passer. Les compteurs installés le long de certaines pistes ont, à mon avis, été pour beaucoup dans cette évolution de la perception des circulations. J'avais moi-même été étonné lorsque les premiers compteurs ont été installés par le nombre élevé de cyclistes comptés et eu du mal à les accepter simplement parce que nous aussi, nous ne voyons pas les cyclistes transparents et rapidement disparus et que nous voyons les voitures, opaques et de taille respectable, qui en s'arrêtant fréquemment, bouchent notre paysage et s'imposent à notre vue. Je suis certain que beaucoup de cyclistes sont dans le même cas que moi. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel pour ta chronique. On se retrouve avec Virgile. La dernière question, c'est ça, c'est ce que je disais juste avant. Est-ce que l'Union Sport et Cycle peut se poser autour de la table avec des gens comme Plégone, avec d'autres, pour réfléchir d'une manière très globale sur l'usage et la proposition vélo ?
Alors, écoutez, j'oserais dire que c'est déjà un petit peu le cas en vérité, puisque nos commissions de travail sont ouvertes à toutes les entreprises adhérentes de l'USC.
Ouais.
Alors, c'est sûr que si on n'est pas adhérent à l'USC, on n'a pas accès à ces cercles de discussion, mais la commission cycle de l'USC accueille des acteurs qui ne sont pas forcément des fabricants, assembleurs ou distributeurs de vélos.
Ouais.
Parce qu'effectivement, vous avez raison de le souligner. Le vélo, quelque part, c'est aussi l'aménagement du territoire, l'aménagement de la ville, de sa circulation, la mise en accessibilité d'un site par rapport à un autre, etc. Donc on travaille pas mal avec les collectivités territoriales sur le sujet également, parce qu'elles sont directement partie prenante. Vous avez raison de souligner également que le vélo, c'est le premier outil de mise en activité des Français.
Oui.
Et on voit bien les ravages actuels de la sédentarité. Donc au-delà des enjeux de plaisir, de sport, économique, voire de pragmatisme économique, hein, pour quelqu'un qui prend un vélo, c'est aussi parce que ça coûte moins cher qu'une voiture, il y a des enjeux de santé publique évidents à développer l'usage du vélo.
Et ben, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Virgile, merci beaucoup. C'était Rayon Libre avec Virgile Caillet, secrétaire général de l'Union Sport et Cycle. Il est venu nous présenter, il est venu échanger sur l'Observatoire du Cycle dévoilé ce matin même, lundi 29 avril. Vous retrouverez des chiffres détaillés sur wheels.fr et ailleurs. Auditeurs, auditrices, vous pouvez retourner à vos occupations. N'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est évidemment une journée gâchée. La semaine prochaine, un Rayon Libre qui va charbonner. Restez sur 93.fm, cause commune. Il est 14h30 et voilà, et à la semaine prochaine. Merci. We'll be right back.
Rayon Libre.